Sascha, Alexander, Ben, Jelena, Matan, Ben, Eina, Eitan, Ben, Ruti, Yair, Ben, Ruti, David, Ben, Silvia, Ariel, Ben, Silvia, Arbel, Alexander ben Nina, Ayim ben Nechama, Sagi ben Nami, Bekol Mishpachat Bibas Shiri Bat Margit, Yarden ben Pnina, Ariel ben Shiri, Vetinok Shana Kfir Ben Shiri
Hey, oh, Dans le magazine de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lynn Lévy. Bonsoir Lynn.
Bonsoir Yael.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Alors, je rappelle que vous êtes responsable marketing des cours de français et professeur de l'Institut français. Vous êtes aussi autrice, notamment d'un roman duquel on a parlé il y a quelques mois déjà, d'une pièce de théâtre. Et vous êtes co-autrice de pièces de théâtre. Vous avez été récompensée par de nombreux prix d'écriture. Et nouvellement, vous êtes autrice d'aventures, on va dire, pour les enfants. On va parler du petit Elliot. Racontez-nous tout d'abord qui est Elliot et qu'est-ce que vous pouvez... Comment est-ce que Elliot est né? Voilà. Parlez-nous de la naissance d'Elliot.
Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir aussi bien présenté. C'est assez élogieux. Comme vous l'avez dit, j'avais écrit à la base, j'avais plutôt écrit des pièces de théâtre, co-écrit des pièces de théâtre et un roman. Et j'ai voulu aussi m'intéresser aux enfants, puisque j'ai enseigné, il fut un temps, aux enfants, à l'Institut français également. Il y a des classes pour enfants. Et moi-même, étant devenue maman, j'ai voulu écrire un livre pour mon fils, pour qu'il puisse s'initier au plaisir de la lecture et qu'il puisse lire en français, puisque mon fils est hébréophone et francophone, et pour moi, il était important qu'il ait un personnage auquel il pourrait s'identifier.
Il a quel âge, le petit garçon, votre fils ?
Il est encore tout petit, il a 3 ans et demi.
Ah, il lit déjà en français ?
Il n'a que 3 ans et demi, non. Mais je préfère m'organiser.
Ouais, ouais, ouais.
Et Elliot, donc, vous me demandez qui était Elliot. Elliot est un petit garçon de 8 ans qui est très attachant, qui est plein de vie, curieux, dynamique, qui va vivre plein d'aventures. Donc, il y a 7 aventures qui ont été présentement écrites,
ah,
les aventures d'Elliot.
Ouais.
Actuellement, 2 sont disponibles à la librairie du Foyer de Tel Aviv.
Qu'on salue, tout à fait, voilà, qui est à côté, sur Kikar Massaryk, hein, c'est bien ça, la place Massaryk.
Tout à fait, il me semble, au 14 Kikar Massaryk.
Ouais.
Le premier livret, c'est Elliot rentre à l'école, et le deuxième livret, Elliot va au marché avec maman. Mais en fait, Elliot, il y a 7 aventures, et je pourrais en écrire et continuer d'écrire, même faire évoluer le personnage. Ah. Mais Elliot, pourquoi le premier rentre à l'école ? Parce qu'il vient de Montpellier et son papa a été muté. Et Elliot et sa famille, à savoir sa maman, sa petite sœur Nina, ont dû. Tous les 4 membres de la famille ont quitté Montpellier pour s'installer à Paris.
Avec l'accent ?
Alors, Elliot, c'est très.
On invite les parents à lire avec l'accent jusqu'au départ à Paris. Voilà.
Voilà. Et donc, Elliot vivra plein de choses inédites. Il intégrera une nouvelle école dans laquelle il se liera d'amitié avec ses nouveaux camarades, notamment Léo et Charlotte. Il ira au Stade de France assister à un match de football et rencontrer ses idoles. Il visitera les nombreux musées parisiens. Il rendra même une fois visite à son papy et à sa mamie à Montpellier. Il montera sur la tour Eiffel, il fera un tour en bateau-mouche, il fera plein de choses à Paris. Et chaque livret, en fait, est une aventure d'Eliott.
Est-ce que c'est ensuite, c'est-à-dire il faut qu'on ait lu les premiers pour pouvoir attaquer les autres? Est-ce que c'est une suite ou est-ce qu'on peut acheter le numéro 4 et puis revenir au numéro 2 après?
Alors, très bonne question. Non, pas du tout. Chaque aventure est indépendante.
Ah,
donc, l'enfant peut lire n'importe quelle aventure. Et c'était le but, en fait. Moi-même, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé lire. J'adorais la comtesse de Ségur et j'adorais Martine. C'est vrai que c'est Martine qui m'a inspirée.
Ouais.
Je voulais que le personnage qui est un personnage récurrent. Donc, on peut lire n'importe quel livret. Et Elliot, en fait, j'ai voulu vraiment initier le jeune lecteur au plaisir de la lecture. Et surtout, c'est très interactif. C'est-à-dire, déjà, chaque aventure se solde par une morale.
Huh.
Et on apprend plein de choses. Par exemple, que le lapin est herbivore, que les tortues terrestres peuvent vivre jusqu'à 150 ans. On apprend beaucoup de choses. Et il y a toujours une morale qui défend des valeurs universellement reconnues. Mais surtout, et c'est là la. C'est fait pour stimuler la créativité et faire exprimer et permettre aux jeunes lecteurs d'exprimer ses sentiments, puisqu'il y a beaucoup de vocables qui sont enseignés dans Elliot à l'aide d'Astérix. Et à la fin de chaque livret, il y a des exercices.
Ah.
Et on demande aussi au lecteur, parfois, on invite le lecteur à exprimer sa créativité en dessinant Elliot, comment il imagine Elliot, comment il imagine l'école d'Elliot, ou la fête du moment, ou l'ami d'Elliot. Donc, on peut s'identifier à Elliot, mais aussi aux autres personnages. Il y a un exercice également de compréhension du texte, par des vrais faux ou barrer l'intrus. Et puis, il y a aussi un exercice de production écrite, où on invite le jeune lecteur à exprimer ses sentiments à l'écrit. Enfin, moi-même,
professeur. Alors, du coup, à l'écrit, etc., c'est destiné à quel âge ? Quels âges ?
Alors, il y a beaucoup. Le jeune lecteur peut lire accompagné de ses parents.
Ouais.
ou s'il sait déjà lire, il peut lire tout seul.
C'est
Donc c'est
ça.
vraiment 5-10 ans. Et pour ne rien vous cacher, il y a même des adultes à l'institut qui lisent Eliot pour apprendre davantage de français, mais c'est plutôt réservé à l'enfant. Mais Eliot est destiné surtout aux 5-10 ans, donc où l'enfant peut lire tout seul, où les parents l'accompagnent, ce que je ferai d'ailleurs avec mon fils, puisque pour le moment il n'est pas en mesure de lire. Et c'est vraiment ça incite à éveiller la curiosité, parce que je voulais vraiment que l'enfant s'identifie à Eliot ou à un autre personnage, et qu'il devienne curieux comme lui, qu'il apprenne auprès de lui, et qu'il ait un compagnon de chevet, et à l'instar de son compagnon de chevet, qu'il vive avec lui, et qu'il apprenne plein de choses, et qu'il vive plein d'aventures auprès d'Eliot.
Donc beaucoup de messages pédagogiques, tout en s'amusant, en apprenant et en perfectionnant le français. Est-ce que vous avez eu d'ores et déjà des retours de parents ou
Alors,
d'adultes?
oui, puisque certains professeurs utilisent Eliot avec leurs jeunes apprenants francophones qui ont beaucoup aimé et qui ont adoré pouvoir participer à l'aventure activement. Et pour l'instant, les retours que j'ai sont positifs. Après, c'est aussi la surprise, quelque chose de nouveau. J'espère que dans la durée, les enfants apprécieront tout autant Eliot. Mais Eliot peut évoluer avec eux. Et c'était même pour moi très intéressant, puisque les professeurs qui utilisent Eliot m'ont montré les dessins qu'ont fait les enfants, leurs productions écrites. Et pour moi, c'était très émouvant
De voir
de
les
voir Eliot
retours dans vos
dessiné sous le crayon de ces jeunes enfants. De lire leur production aussi sur
Ah, vous avez eu un droit de regard sur leur rédaction?
Oui, tout à fait.
Alors du coup, là vous avez donc deux des épisodes, des volets d'Eliot qui sont d'ores et déjà disponibles, mais vous en préparez d'autres.
Oui, tout à fait. Un troisième va très, très, très prochainement sortir.
Et
Et
donc,
par la suite, d'autres seront prévus.
ils sont donc disponibles en physique, en livre physique, ça on a dit, à la librairie du foyer sur la place Masaryk à Tel Aviv. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres versions, d'autres endroits où on peut se procurer les livres?
Sur Amazon.
Sur Amazon aussi. Donc on peut en fait le télécharger, peut-être même l'imprimer pour, en tout cas
Alors
pour
sur
les pages.
Amazon, on peut avoir tous les livrets d'un seul coup.
Ah, même ceux qui sont pas encore parus.
Parce que j'y travaille, mais il y a moins d'activités interactives.
Ah,
Et c'est
d'accord.
vrai. Et Eliot, c'est surtout moi, ce qui m'intéressait, c'était d'initier au plaisir de la lecture, mais aussi de faire participer le jeune lecteur au livre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare.
Pourquoi pas envisager proposer le livre au système scolaire
Alors,
israélien?
c'est
Parce que,
prévu.
voilà, parce
C'est
qu'à
tout à
partir de
fait
la
prévu.
quatrième, ici, on donne le choix en seconde
Tout
langue
à
entre
fait.
l'arabe et le français, et beaucoup choisissent le français jusqu'au décès de la prof, comme me disent tous les Israéliens. La prof est décédée, la prof est décédée. C'est une
C'est
boutade,
prévu
hein,
parce
bien
que
sûr.
je côtoie moi-même ce milieu.
Voilà.
Ça peut être un très bon support pédagogique d'apprentissage de la lecture. Et j'ai déjà quelques rendez-vous et j'ai prévu de tenter de faire intégrer Eliot dans certaines classes, et francophones et hébréophones,
Ah, c'est bien
pour
ça,
les deux.
c'est bien ça.
Et aussi pour les jeunes hébreux, puisque je suis en
Est-ce que vous
Israël.
avez le sentiment qu'un petit garçon ou une petite fille vivante en Israël qui découvre les Ah, on entend le petit représentant d'Eliot, le responsable
Le
marketing
petit qui me
d'Eliot.
parle en hébreu. Vous
Ah
comprenez
non, ça
pourquoi
c'est pas.
j'ai voulu écrire un livre en français pour qu'il
Pour qu'il.
parle et communique en français avec sa maman.
Il faut être très ferme. Moi, j'ai passé des années à corriger mes enfants qu'on ne me répondait pas en hébreu. Enfin bon, ça c'est une autre discussion. Mais en l'occurrence, est-ce que vous pensez que les petits-enfants aujourd'hui, les enfants qui ont l'âge quand même de la conscience de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, de la conscience du danger, peuvent s'identifier à un petit garçon qui vit entre Montpellier et puis Paris, donc qui a des racines à Montpellier mais qui grandit maintenant à Paris, qui vit dans une réalité qui est complètement différente. Est-ce que vous pensez qu'il peut quand même s'identifier à ce petit garçon?
Oui, parce que déjà, il faut préserver l'enfant. l'enfant a le droit de vivre pleinement son enfance en étant conscient, bien évidemment, des dangers, surtout dans le pays dans lequel nous vivons, en Israël. Néanmoins, Elliot a des qualités et des défauts que tout enfant peut avoir, peu importe le pays dans lequel il réside. Donc tout le monde peut s'identifier à Elliot, et pas forcément qu'à Elliot, parce qu'il y a d'autres personnages. Mmh. Et aussi, je pense qu'il est nécessaire de s'évader grâce aux aventures d'Elliot, grâce à la lecture en général. La lecture, pour moi, m'a toujours permis de m'évader. La lecture, les films, bon, c'est ma manière à moi de m'évader. Donc, je voulais aussi que la lecture permette aux enfants de vivre des choses extraordinaires, de voyager dans certains continents, puisqu'il y a de voyages, et aussi d'apprendre tout en s'amusant.
Lynn Lévy, merci beaucoup de nous avoir présenté Elliot. On est ravis de savoir qu'il est disponible tout près de chez vous en Israël et aussi donc sur Amazon, bien évidemment. On dit donc bon début d'Elliot et puis on attend les prochains numéros avec impatience. À très bientôt sur les ondes de Canon français.
Je vous remercie, Yael, de m'avoir invité et j'espère de nouveau parler de la suite d'Elliot. Et Elliot pourra probablement évoluer aussi avec son jeune lectorat.
On sera là. Merci
Il
beaucoup.
Il suscite l'intérêt.
J'en suis sûre. À bientôt, Lynn. Merci.
Merci beaucoup, Yael.
Macha Fogel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je voudrais commencer par, avant évidemment qu'on parle des questions de la guerre et de la manière dont elle est perçue dans le monde ultra-orthodoxe antisioniste, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre rapport à ce monde-là et de votre expertise en réalité.
Alors, en fait, je connais ce monde-là, non pas vraiment comme experte, mais plutôt simplement comme yiddishophone. C'est un monde, le monde chassidique non sioniste et largement yiddishophone, surtout autour du grand groupe chassidique Satmar, avec tous les petits groupes chassidiques qui lui sont liés. Voilà, c'est un monde largement yiddishophone. Et quand on veut parler yiddish de façon quotidienne, avec des gens dont c'est la langue maternelle, voire parfois la langue unique, eh bien, ce sont les interlocuteurs privilégiés. Donc voilà, c'est en tant que yiddishophone et personne souhaitant parler en yiddish que je connais ce monde-là, à la fois à travers leurs journaux et puis à travers des vraies personnes.
Et pourquoi c'est le monde yiddishophone antisioniste spécifiquement qui vous intéresse ?
C'est un concours de circonstances, si vous voulez. C'est parce que il se trouve que c'est là que se trouvent les interlocuteurs de cette langue. C'est vrai que dans le monde Chabad, qui n'est pas antisioniste, même s'il n'est pas sioniste non plus, on trouve aussi des interlocuteurs yiddish. Et quand j'en rencontre, je suis très heureuse de parler avec eux aussi. Mais le groupe qui a développé des organes de presse importants, le groupe qui a vraiment mis le yiddish au cœur de son système, il se trouve que c'est le groupe chassidique Satmar qui est effectivement passionniste et il y a sûrement un lien politique entre effectivement cette opposition au sionisme et la volonté farouche de conserver une langue juive qui ne soit pas l'hébreu moderne. Ça c'est possible.
Alors beaucoup des membres de ce groupe Satmar vivent en Israël, plus particulièrement à Jérusalem. Alors, comment on peut être israélien, vivre à Jérusalem et être en même temps antisioniste ?
C'est une question vraiment très intéressante. Les Satmar habitent quand même majoritairement en dehors d'Israël, principalement aux États-Unis. Mm-hmm. C'est vrai que certains habitent en Israël, à Nemrak, à Jérusalem, parce que l'histoire les y a placés, comme beaucoup de juifs. Mais la particularité du groupe Satmar, contrairement à d'autres groupes hassidiques, c'est que ce groupe-là ne participe pas aux élections en Israël et ne touche pas de financement de l'État, même d'allocations familiales, etc. C'est-à-dire que c'est un groupe qui ne souhaite pas avoir de lien ni politique ni d'aide économique avec l'État d'Israël. Donc c'est quand même donc ça les place dans une position aussi très différente par rapport à d'autres groupes chassidiques orthodoxes qui ne sont pas forcément,
par exemple.
Exactement, ou même comme les chassidim de Gour. En fait, tous les groupes chassidiques qui appartiennent à l'ensemble Agouda, qui votent et qui ont des places au Parlement, par exemple.
Alors, comment le 7 octobre a été perçu par les Satmar ?
Ça a été une réaction très semblable, je crois, à celle de la majorité des juifs dans le monde entier, c'est-à-dire un choc immense, une très grande tristesse, de l'horreur, de la peur. Le fait de voir des massacres de juifs, aussi bien les personnes avec lesquelles j'ai parlé que les journaux que j'ai pu lire ont témoigné d'un bouleversement, d'une sidération qui ressemblait beaucoup à celle qu'on partageait tous les autres juifs de France ou la presse juive française, puisque j'habite en France, que j'ai pu consulter. Donc ça a été la façon dont ils en parlent, par exemple, ils parlent de pogrom, le pogrom de Shmini Atzeret, ils parlent de massacre, ils parlent du Hamas comme d'un groupe évidemment terroriste, avec une histoire vraiment sinistre, comme de meurtrier cruel. Voilà, il n'y a pas de Il n'y a pas tellement, si vous voulez, d'ambiguïté sur leur émotion face à au meurtre, au massacre de juifs le 7 et le 8 octobre. Mmh.
Mais par exemple, la responsabilité du gouvernement, de l'armée israélienne, on le sait, les 7 mars sont critiques des institutions israéliennes. Les institutions israéliennes, certains diraient, ont une énorme responsabilité dans cet échec du 7 octobre. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, les ultra-orthodoxes?
Alors, en tout cas, les ultra-orthodoxes de 7 mars, sur ce point-là, ils auront les mêmes critiques que d'autres. Alors, eux ne sont pas israéliens, si vous voulez, mais ils pourront relayer des critiques qui sont faites en Israël même, des rôles de l'armée ou des services secrets éventuellement. Mais eux, ils ne placent pas, si vous voulez, ils n'excusent pas ces meurtres de juifs en disant ils sont le fruit de l'histoire du sionisme, etc. C'est pas ça leur rhétorique. Mmh. Voilà, ils ne voient pas les actes du Hamas comme des actes amenés par l'histoire d'Israël et l'histoire du sionisme. En revanche, ils ne vont pas hésiter à déplorer les provocations. Comme par exemple les visites sur le Mont du Temple qui avaient été faites pendant la fête de Soukhot, la mois de Soukhot, en disant voilà, ces provocations, elles ont nourri la fureur meurtrière du Hamas fureur qui s'est déversée sur les Israéliens avec le déluge d'Al-Qod, les lancements de roquettes et puis les atrocités du 7 octobre. Mmh. Donc voilà, c'est plutôt... C'est plutôt des mises en garde aux juifs qui seraient tentés, surtout aux juifs religieux qui seraient tentés de faire des provocations plutôt qu'une inscription dans l'histoire avec ils n'expliquent pas que les juifs sont responsables de leur propre assassinat. Voilà.
Et pour ce qui est, alors on sait que ce qui a la conséquence directe du 7 octobre, ça a été l'entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza quelques semaines après le 7 octobre, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza et encore aujourd'hui, quasiment 6 mois après, il y a des opérations en cours à Gaza. On s'apprête à débuter une opération militaire de grande envergure à Rafiah. Qu'est-ce que pensent les ultra-orthodoxes de ce sujet particulier qui sont les opérations militaires de l'armée israélienne à Gaza?
Alors là, en revanche, ils sont très clairement critiques. Et depuis le début, c'est-à-dire depuis le 10 octobre, ils sont très critiques. Mais parce que, pour le coup, ils sont toujours très critiques de l'emploi de la force par une armée juive. Et de toute façon, ils sont critiques de l'existence même d'une armée juive, ce qui fait partie de leur pensée antisioniste ou non-sioniste de manière générale. Donc, eux, ils vont être
Oui. Enfin, quel est le problème dans une armée juive?
Oui, alors, c'est plutôt des arguments religieux qu'ils sont mis en avant. Le groupe Satmar, c'est un groupe qui n'est pas très nombreux en soi, puisque c'est à peu près, ça doit être à peu près 20% de la population chassidique et que les chassidim font 5% de la population juive. Mais bon, c'est quand même un groupe assez important, puisque par comparaison, les Lubavitch, c'est 13% de la population chassidique. Donc c'est quand même un groupe important. Maintenant, c'est un groupe qui se distingue effectivement par son antisionisme, et c'est un antisionisme religieux qui a été développé par un rabbin très important dans ce mouvement, qui est le rabbin Joël Teitelbaum, qui a émigré aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, qui a écrit un livre, le Vayoel Moshe, dans lequel il fait un récapitulatif de cet antisionisme religieux en analysant des textes du Talmud, notamment d'un traité qui est le traité de Ketubot, qui exige des juifs qu'ils attendent la rédemption messianique pour retourner en masse en Israël, d'une part, et qui, d'autre part, interdit aux Juifs de provoquer les nations. Provoquer les nations, c'est assez général. Avoir un État, ça, c'est pas forcément provoquer les nations. En revanche, dépasser des frontières en dehors du droit international, ça, ça va être provoquer les nations, en particulier les nations arabes. Donc voilà, c'est pas seulement, si vous voulez, donc c'est un antisionisme qui est religieux plus que exclusivement en fait. Voilà. Et à l'intérieur de cet antisionisme, il y a aussi une opposition à la participation de juifs à une armée juive, puisque du coup, c'est interdit de retourner sur cette terre sans l'arrivée du Messie. Donc, il ne faut pas le faire par la force. Mmh. Donc, un juif ne veut pas participer à l'armée. Mmh. Voilà.
Et donc leur critique envers, enfin contre le mm-hmm. l'action à Gaza oui. est principalement religieuse. Est-ce qu'il y a des est-ce que c'est sous-tendu quand même par une logique morale, le fait de pas verser de sang?
Oui, si vous voulez, leur morale est religieuse. Mm-hmm. Même leur humanisme est religieux. Mm-hmm. Donc, de toute façon, c'est des gens extrêmement pratiquants qui vivent dans un monde à 100% religieux. Donc, leur morale aussi est religieuse. Mais ils sont en colère. Ils sont pas tellement en colère contre les sionistes laïcs, en réalité, mais plutôt contre les sionistes religieux. Et je discutais aujourd'hui, d'ailleurs, avec un rédacteur d'un des grands journaux, cette marque s'appelle Derit, qui m'expliquait qu'une des grands, une des grandes peurs en ce moment, dans le courant Satmar, c'est le fait que, avec la question de l'enrôlement des jeunes religieux dans l'armée, les groupes religieux, d'une manière générale, sont poussés dans les bras de la droite. Et la droite, eux, ils la trouvent extrémiste. Et la droite en profite, si vous voulez, pour gagner en puissance. Grâce à ces gens qui pourtant refusent de participer à l'armée. Voilà, donc ça c'est et vous voyez, donc là, il y a une opposition à la droite qui est une opposition politique et en même temps qui est une opposition religieuse. Maintenant, leurs vrais ennemis au sein du peuple juif, évidemment, leurs adversaires, ça va être les sionistes religieux plutôt que les sionistes laïcs. Les sionistes religieux sont leurs vrais adversaires.
Ils en ont beaucoup, par exemple, après Karine Ben-Gvir. Parce qu'ils font une interprétation différente de la Torah.
Exactement, et parce que ils les trouvent. En fait, ils pensent qu'ils mènent le peuple juif à la catastrophe, qu'ils vont faire monter les guerres, faire monter la haine contre les juifs dans le monde, qu'ils empêchent les relations pacifiques avec les autres nations, etc. Et donc, pour eux, c'est si vous voulez, c'est à la fois parce qu'ils ont une interprétation différente et parce que concrètement et pratiquement, ils pensent que ils mènent le peuple d'Israël sur un chemin dangereux. Et alors eux, c'est surtout eux qui vont vilipender, par exemple, dans leurs journaux, en notant effectivement des choses que des gens qui ne sont pas du tout religieux pourraient trouver choquantes aussi, hein, le fait de mélanger religion et politique et guerre, ça peut donner dans d'autres parce qu'il y a d'autres journaux ultra-orthodoxes qui vont justifier la guerre, qui vont dire on peut même tuer des enfants parce que ça s'est déjà fait dans la Bible, etc. Ça, c'est le genre d'argument que les chassidines du groupe Satmar vont trouver absolument terrifiant et auxquels ils vont s'opposer parce qu'ils disent que c'est des interprétations erronées de la Torah.
Alors, vous parliez à l'instant de la droite et de cette récupération des communautés ultra-orthodoxes en Israël par la droite. Alors, on sait que l'argument de taille qu'a utilisé la droite quasiment depuis la création de l'État d'Israël, on peut discuter de combien était de droite Ben Gurion par rapport à Netanyahou, mais tout de même, l'histoire du statu quo, du fait de garder Shabbat et certaines règles de religion dans l'espace public, et évidemment le fait qu'il n'y ait pas d'enrôlement des ultra-orthodoxes à l'armée et que l'État fonde les yeshivot. Alors, on le sait, il y a un mois quasiment de ça, ce statu quo a été complètement bousculé, puisque la conseillère judiciaire de l'État israélien a déclaré que une loi qui interdirait ou qui empêcherait les étudiants d'Yeshiva de s'engager à l'armée était inconstitutionnelle. De cela, la conséquence a été que certaines yeshivotes, certaines écoles talmudiques ont été défondées. On leur a retiré l'argent qu'ils recevaient depuis. Comment les satmars antisionistes réagissent-ils à cette nouvelle ?
Oui, c'est vraiment une question essentielle en ce moment. Les satmars eux-mêmes ne sont pas touchés par la question dans la mesure où eux, leur yeshivot, de toute façon, elles sont financées par leur propre groupe depuis les États-Unis. Mais les satmars vivent normalement en bonne entente avec d'autres groupes de la Gouda qui, eux, participent à la vie israélienne, reçoivent des financements, notamment effectivement pour leur yeshivot, et votent. Et donc, c'est exactement ce que je vous disais, la crainte un petit peu dans l'espace médiatique satmar en ce moment, c'est que les juifs ultra-orthodoxes soient encore plus poussés à la droite ou à l'extrême droite. Et une fois qu'ils sont à droite, si vous voulez, même c'est paradoxal parce que la droite leur promet le statu quo et donc de ne pas entrer dans l'armée. Mais la peur, c'est qu'une fois qu'ils sont à droite, ils acceptent du coup quand même de payer un tribut à l'État, d'envoyer quelques jeunes à l'armée, même si c'est pas forcément pour combattre, mais que petit à petit, la logique d'extrême droite monte dans ces groupes-là, qu'il y ait de plus en plus de familles qui aillent s'installer, par exemple, en Cisjordanie, et que donc il y a un extrémisme qui gagne ce monde qui jusque-là n'était pas dans cet extrémisme-là, puisque de toute façon, il était en dehors de l'armée et de la vie politique israélienne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les satmars, mais je pense que ce n'est pas les seuls qui peuvent s'en inquiéter.
Vous pensez qu'ils pourraient se faire enrôler à un moment donné, les satmars ?
D'un point de vue, de façon individuelle, oui, il y a sûrement plein de jeunes garçons qui préfèrent de toute façon entrer dans l'armée plutôt que d'aller à la yeshiva, ou plutôt, ils vont pas du tout tous à la yeshiva, il y en a qui commencent à travailler, c'est un groupe c'est un groupe chassidique qui pour le coup s'autofinance et qui donc envoie tout le monde au travail.
Donc les hommes travaillent.
Les hommes travaillent, donc il y a plein de jeunes qui sont pas forcément très contents de leur famille, de leur vie, et qui préfèrent aller à l'armée, ou plein de jeunes qui peuvent être aussi intéressés par les idées sionistes du pays dans lequel ils vivent et qui pourraient tout à fait vouloir y aller. Ça, d'un point de vue individuel, c'est tout à fait possible. Après, que le groupe Satmar encourage l'enrôlement de jeunes, ça, je pense que je pense qu'on en est vraiment très loin.
Alors, une dernière question avant de terminer, Macha. Moi, je me souviens de cette affiche assez choquante en France de la liste antisioniste avec Dieudonné et sa fameuse quenelle. Il y avait, je pense, un rave Nettori Carta, si je me trompe pas, qui faisait partie de sa liste. Dieudonné, on sait qu'il est plutôt antisémite qu'antisioniste.
Tout à fait.
Mais il y a chez les antisionistes, qui peuvent être juifs ou pas d'ailleurs, la question du boycott d'Israël comme manière de mettre fin au conflit israélo-palestinien et de forcer Israël à trouver une solution plus qui aille dans la direction de la paix. Qu'est-ce que la communauté Satmar pense de cette question du boycott avant et après le 7 octobre ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être une différence maintenant.
Et merci pour cette question. Alors, je me permets peut-être de faire un tout petit point. Il y a vraiment une différence entre les Nettori Carta et les Satmar. Tout le monde est minoritaire. Là, on est chez des minoritaires de minoritaires, et les juifs eux-mêmes sont quand même minoritaires sur Terre. Mais les Nettori Carta sont vraiment très, 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 très peu nombreux. Et en plus, ça fait des dizaines d'années, depuis les années 70, qu'ils ont été condamnés par les plus hautes autorités Satmar, justement pour leur proximité avec des ennemis du peuple peuple d'Israël. Mmh. Voilà, donc c'est pas des groupes qui vont ensemble. Les Satmar, eux, dans leurs journaux, ils n'hésitent pas à dénoncer les débordements des manifestations pro-palestiniennes quand il y en a aux États-Unis, parce qu'ils écrivent plutôt depuis les États-Unis, par exemple. Maintenant, pour cette question du boycott, ça c'est très intéressant. En fait, eux, ils prônent pas du tout un boycott politique des produits venant d'Israël. En revanche, ça n'a absolument rien à voir, mais les plus religieux d'entre eux évitent d'acheter des fruits venant d'Israël.
À cause de la chouta.
Pas un boycott. Voilà, exactement. Donc c'est une sorte de... Non pas de boycott, mais de méfiance religieuse. Voilà.
D'accord.
Mais de boycott, non, ça, il en a jamais été question, et ni avant, ni après le 7 octobre.
Masha Fogel, je vous remercie pour cette analyse originale. On n'entend pas souvent parler de la communauté Satmar et de ses points de vue. Donc, on espère vous avoir de nouveau très vite dans notre programme. Et merci.
Merci beaucoup, Rachel, pour toutes vos questions sur ce monde mystérieux et assez fermé.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Année en 75 secondes, le résumé de tous les grands événements d'Israël depuis 75 ans, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à ce jour. Voilà comment on célèbre Israël en bleu et blanc. 1978, ils sont toujours là. La télévision éducative diffuse le programme et voilà tout. Zéouzé.
I got you.
Dans le plateau du Golan, on inaugure Katsrin, qui deviendra plus tard Irvaem, une ville et sa mère, en traduction littérale. Comme à Chicago, une commission spéciale conclut qu'en Israël aussi, le crime organisé existe. Bensi, Yodaleh et Momo déchirent le grand écran pour la première fois. On projette le film Eskimo Limon, l'Eskimo au citron, de Boaz Davidson.
Le film Eskimo Limon, j'ai fait en fait un réponse de Beisouk. J'ai eu une parole de la ville avec une fille que j'ai aimé. Le film de Bensi, c'est le film de moi.
Terrorisme en pleine route de la mer. Des terroristes venus par la mer prennent en otage un bus et un taxi qui roulaient vers le sud. Ils assassinent 35 personnes et en blessent des dizaines d'autres.
L'autobus est détruit.
En réaction à cet attentat terroriste, l'armée entame une large opération militaire au sud Liban, l'opération Litani. C'est aussi le début des actions de Shalom Arshav, la paix maintenant. Le mouvement prône un compromis pour promouvoir la fin du conflit israélo-arabe. Les rois de l'Eurovision. Yizhar Cohen conquit la scène à Paris avec la chanson « Abanibi ». En septembre, le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin se rencontrent à Camp David pour évoquer les accords de paix. Les deux obtiendront plus tard le prix Nobel de la paix. Une année en 75 secondes.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière, et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux. Nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. sang est demeuré froid. Mon cœur ne va pas plus vite qu'avant, qu'avant, qu'avant. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Année en 75 secondes. Le résumé de tous les grands événements d'Israël depuis 75 ans, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à ce jour. Voilà comment on célèbre Israël en bleu et blanc. Deux fois, c'est encore mieux. Gali Attari et le groupe Khalaf Bidvash remportent l'Eurovision pour la seconde fois consécutive lors de la compétition qui se déroule donc à Jérusalem. On commence à rendre. Israël restitue à l'Égypte la ville de El Arish dans le cadre des accords de paix qui sont signés. Le journaliste de l'autorité de diffusion Afik Halabi rapporte que des habitants de Elon Moré ont conquis des terres palestiniennes. Il reçoit des menaces et doit être protégé par un garde du corps. En septembre, une explosion mystérieuse en Antarctique. Les États-Unis estiment qu'Israël et l'Afrique du Sud ont réalisé un exercice de manœuvre nucléaire conjoint. Une météo incroyable dans le centre du pays. Le fleuve du Yarkon déborde et le pont de Nahalat Yitzhak s'écroule. La scène de Tel Aviv a toujours été là. Le film Dizengoff 99, David Nesher, sort sur le grand écran. Il devient une référence pour le cinéma israélien.